Je vous propose de commencer cette soirée. On va passer une heure ensemble. Donc, on a le plaisir d'accueillir David Mangin, qui a beaucoup couru depuis ce matin pour essayer d'arriver à l'heure à Bordeaux. Il y est arrivé et on l'en remercie d'autant qu'il repartira ensuite très, très rapidement. Mais c'est bien de l'avoir avec nous. Et puis, c'est bien qu'il ait pu voir la belle vitrine et le beau corner que la librairie Mola lui a consacré. Je suis Jean-Marc Hoffner, je dirige l'agence d'urbanisme et on a eu l'occasion de se croiser dans quelques aventures communes, en particulier la consultation du Grand Paris, la revue Urbanisme, la formation à l'école des ponts. Et voilà, donc je suis très content de le retrouver ici à Bordeaux. Alors, suivant la tradition, je vais le présenter très, très rapidement. Si vous voulez en savoir plus sur sa vie, son œuvre, je vous conseille l'avant-dernier numéro de la revue Urbanisme, où il y a un très bel entretien de David Mangin, qui est dans la série des grands entretiens de la revue Urbanisme, que vous trouvez naturellement chez votre libraire préféré. Alors, quelques dates les plus récentes. David est architecte et urbaniste. Moi, c'est une distinction qui me va bien. Ce n'est pas un enjeu majeur ici, mais je trouve que c'est intéressant de voir qu'il y a des postures différentes sur cette question. Et c'est bien en urbaniste qui développe le plus souvent ses idées. Il a été donc en 2004, grande année, le lauréat de la consultation internationale sur les Halles. Et en 2004, il a aussi reçu le prix de la ville à lire pour un des best-sellers du rayon urbanisme, à savoir La ville franchisée, voilà, qui était un décodage de la production urbaine contemporaine. Il a eu le Grand Prix de l'urbanisme en 2008. Il est un des responsables de l'agence SERA à Paris, qui travaille dans le monde et qui travaille beaucoup, si je peux dire, sur les espaces publics, qui travaille beaucoup sur des grands projets dans lesquels les infrastructures sont très présentes. On connaît ici sur deux sites, le cours du Chapeau Rouge, donc, qui a été refait par David il y a quelques années, puis le centre-ville de Pessac, livré un peu plus récemment. David Mangin enseigne beaucoup, il aime bien enseigner le projet urbain et plus largement, en particulier à l'école d'architecture de Marne-la-Vallée, avec un master sur la question métropolitaine. Il a beaucoup œuvré pour le Grand Paris dans la première consultation, dans les consultations actuelles. Et pour résumer en deux mots sa posture intellectuelle, on pourrait dire qu'il est le défenseur de la ville passante et le pourfendeur de la ville des produits. Voilà, c'est une façon rapide de parler de David Mangin. Pour tout de suite arriver au but de notre séance, la présentation de cet objet éditorial inédit. OVNI éditorial. Je crois qu'il faudra aussi remercier les éditions Parenthèse d'avoir été dans cette aventure. Les éditions Parenthèse produisent beaucoup sur les questions architecturales et urbaines avec beaucoup de persévérance. Et c'est évidemment tout à fait intéressant pour le milieu de l'urbanisme. Alors, plus de 1000 pages, 1200 dessins. Pour une somme très modique, donc au dessin, hein, ça fait très peu cher. Donc je vous encourage naturellement à acheter le livre. D'où il sort ce livre? On va y revenir, mais juste pour présenter rapidement. Quand on va à l'agence SERA, il y a un endroit un peu touffu, duquel on voit des rayonnages de carnets de croquis. Il y en a une petite centaine probablement. Donc carnets de croquis noircis depuis une vingtaine d'années aux quatre coins de la planète. Beaucoup les grandes métropoles en développement, mais pas seulement. Si on faisait un petit comptage quantitatif, parce que David aime bien le quantitatif aussi, l'Italie est bien là, Paris est bien là, l'île Dieu est bien là, et le Cap Ferré. Voilà, donc pour ceux qui aiment le local, il y a du Cap Ferré dans le livre. Mais on voyage dans le monde, Shenzhen, São Paulo, voilà, l'Australie, le monde entier. Parfois des commentaires personnels ou plus souvent des citations. Et puis, ce qui est surprenant et méritera explication, des petits dossiers plutôt photographiques sur des thèmes particuliers qui laissent à penser qu'il y a probablement derrière une réflexion sur les apports respectifs de ces différents médias. Pour structurer la discussion, on pourrait raisonner en trois temps. D'abord, ce projet éditorial, d'où ça sort ? D'autant que tu as une production éditoriale forte. Là, il y a un autre bouquin que vous pourrez voir sur l'urbanisme commercial. Ensuite, parler un peu de ce que représente le dessin, dessiner rapidement. Qu'est-ce que ça veut dire ? Qu'est-ce que ça apporte en termes de vecteurs, d'observation, d'analyse, de transmission, de sensibilité, et puis finir, parce que j'ai quelques hypothèses à te soumettre, finir sur le choix des sujets. Alors, projet éditorial, avec une conception graphique particulière, à un moment, il est écrit, je crois que c'est toi qui l'écris, le dessin, c'est un pas de côté, c'est le hors-champ de la photo. Norman Foster, qui aime bien aussi se balader avec des croquis, lui dit dessiner, c'est en quelque sorte dialoguer avec soi-même. Question brutale, est-ce que c'est finalement tes carnets intimes que tu nous livres ici, dans ce projet éditorial ?
Alors, bonsoir à tous et merci à la librairie, à la fois pour ces. J'ai eu le temps rapidement d'aller voir un beau travail de présentation d'un certain nombre de dessins extraits. Et merci à Jean-Marc de bien avoir voulu dialoguer sur cet OVNI, effectivement cet OVNI éditorial. Il y a un bon rapport quantité-prix. Après, le problème, c'est qu'il y a un rapport qualité-prix. C'est peut-être le sujet de la discussion de ce soir. Alors, qu'est-ce qui s'est passé en réalité ? Le projet éditorial, il est venu du fait que j'avais, comme tu dis, une centaine de carnets. D'ailleurs, j'ai un carnet qui pourrait circuler, que j'ai apporté pour vous montrer de quoi ça part. Il doit être dans le petit sac noir qui est là. C'est un carnet gris qui est dans le... Elles n'écoutent pas, là. Dans le sac, vous allez le trouver. Et donc, il y avait effectivement cette masse de carnets. Alors, ces carnets, c'est en fait, soyons clairs, c'est des carnets, la plupart du temps, de vacances. Ce n'est pas des carnets de travail, ce n'est pas des carnets d'architectes, ce n'est pas des carnets de dessinateurs professionnels, c'est simplement, voilà, ça. C'est simplement, ça correspond à peu près à une époque où j'arrivais à voyager... seul ou accompagné ou pour des prétextes divers et variés. Voilà, un carnet comme celui-là, je sais à peu près que c'est 8 à 10 jours de dessin. Les deux premiers jours, on dessine mal, on n'a pas très envie, on regarde, etc. Donc, en fait, et après, bon, après on dessine beaucoup. Donc, je me suis retrouvé effectivement, après 20 ou 25 ans, d'avoir fait cet exercice qui fait partie des vacances, c'est-à-dire qui vide la tête, tu faisais un pas de côté, c'est pour moi c'est surtout ça, c'est une façon d'être là et de ne pas être là, d'être avec des gens et de ne pas être avec des gens. Peut-être j'expliquerai pourquoi, c'est un peu des dessins, c'est dessiné en marchant, c'est dessiné en, en bougeant, c'est dessiné avec une certaine impatience qui me correspond assez. Et donc, bon, tout ça va un peu ensemble. Alors, en fait, le projet éditorial, il est venu qu'à un certain moment, les gens connaissaient ses carnets, ils disaient, mais pourquoi t'en fais pas quelque chose ? Donc, j'ai commencé un peu à réfléchir à la question, en toute modestie, hein, parce que c'est pas... Tout le monde n'est pas Giacometti. Je voulais éviter un certain nombre d'écueils. Un, le carnet de voyage, comme il y en a beaucoup, et des très beaux d'ailleurs, mais très préfabriqués, ou alors, vous avez le droit à l'étiquette du camembert, la note de restaurant, l'hôtel, etc. Et beaucoup d'informations sur une espèce de reportage ethnologique local. Donc, c'est pas ça. Je ne voulais pas ça, et d'autant plus, je n'avais pas vraiment la matière à ça, et ce n'est pas fait comme ça. Je voulais éviter les carnets d'architectes. Il y en a aussi beaucoup de publiés. Tu parlais de Foster, qui sont souvent d'ailleurs des croquis qui sont faits après. Nous connaissons bien le milieu, qui sont ou pour présenter des projets, donc qui sont assez pré ou post fabriqués ou des rétro manifestes. Donc c'est pas ça non plus. Donc c'est le contenu des carnets, comme vous allez le voir, ou comme vous, et de sa manière, je pense le bouquin en rend compte assez bien, une très grande diversité. C'est-à-dire ça peut être, je serai ici, je serai en train de dessiner, je dessinerai à la fois la salle, peut-être un détail de la cheminée ici, tout à fait autre chose en pensant à autre chose en même temps, la trame des rues de Bordeaux, voilà, c'est des associations d'idées. Donc j'ai demandé à Susanna Shannon, qui est une très bonne graphiste, qui a beaucoup, beaucoup travaillé à Paris et qui est maintenant sur Marseille, de réfléchir avec moi à ça, puisque je n'arrive pas à trouver la bonne formule. Donc en fait, on a pris deux décisions. La première, c'est de faire ça historiquement, c'est-à-dire prendre des carnets, je ne sais plus quand ça commence, mais dans les années 80, 95, voilà, jusqu'à maintenant. Donc c'est chronologique, ce qui une très grande facilité. C'est forcément une sélection hein, par rapport à un carnet comme... un carnet, je ne sais plus qui fait ça. Les carnets de 50 pages, où on n'en a pris que 3 ou 4 par carnet, ou quelquefois un peu plus. Donc ça, c'était la première idée. La seconde, qui est une idée qui vient d'elle, c'est que j'avais un certain nombre de petits sujets, de petites marottes très diverses, que je voulais développer un peu plus. Et je ne voulais pas non plus, à nouveau, faire la leçon d'urbanisme ou la leçon d'architecture, qu'on fasse des cahiers, donc dans notre jargon, on appelle ça des cahiers, qui intervertissent, qui permettent de ne pas avoir 1200 pages de dessins, ce qui est quand même un peu fatigant au bout d'un moment, mais qui racontent des histoires. Donc il y a 6 histoires, grosso modo, très diverses, 6 cahiers, donc pour mémoire, si je m'en souviens. Le premier, on les a classés un peu... À la fois chronologiquement, on n'a pas complètement réussi parce qu'il y avait des problèmes techniques de fabrication du livre. Le premier, pour vous dire la futilité de la chose, j'ai un sujet très, 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 qui me plaît beaucoup, c'est les commentaires à la plage sur la côte atlantique, sur la température de l'eau. C'est un sujet absolument inépuisable, sur lequel tout le monde a un avis extrêmement scientifique sur la question. Elle est meilleure hier, pourquoi est-ce qu'elle est meilleure, etc. Surtout côté Bretagne, Bretagne Nord, voilà, que je connais bien. Mais quand même, sur la côte atlantique ici, vous n'échappez pas à ça. Essayez vous-même. Les gens s'y prêtent avec beaucoup. Et donc, ça fait des années que je note et que je m'amuse à ça. Donc, il y a un cas qui s'appelle La Flotte, ou quelque chose comme ça, où l'eau est froide, qui fait ça. Donc, il y a trois cahiers qui sont sur des endroits qui ne sont pas indifférents, qui ont une certaine analogie. Ce serait un peu... pour faire un peu pédant, un peu ce que Michel Foucault appelle des hétérotopies, c'est-à-dire des endroits un peu entre deux, un peu qui ne sont pas des endroits très conventionnels géographiquement. Qui est Ras El Bahr, qui est un endroit qui est entre, qui est la branche droite du Nil dans le delta du Nil, donc entre l'arrivée du Nil et la mer. Et donc vous avez un peu comme au Cap Ferré, vous allez à l'océan ou vous allez sur le bassin, voilà, c'est des grandes discussions, le bassin, l'océan. Donc il y a Ras El Bahr, il y en a un autre qui est une chose qui est devenue quasi historique de fait. C'est avec des copains, on avait loué une datcha préfabriquée près de Sébastopol, donc dans les endroits très très chauds du moment. Et donc j'ai fait une espèce de reportage sur comment D'ailleurs, des Ukrainiens très pro-russes, l'histoire l'a montré par la suite, finalement, vampirisaient les casernes de l'armée russe, la production de la préfa, etc., et fabriquaient des maisons. Donc, j'ai appelé ce cahier Datchaland, où je raconte cette espèce de bricolage incroyable de gens qui se font de l'urbanisation. Ce n'est pas de la favela, c'est Datchaland. C'est comment ils sont passés de la petite datcha tolérée à la datcha construite et maintenant quasiment des villas ou même des produits, pour reprendre l'expression de Jean-Marc de tout à l'heure. Alors, il y en a un autre, bon, ben, vous verrez, il y en a un autre qui est Saint-Louis. Saint-Louis du Sénégal, c'est une chose plus connue, mais qui est aussi un peu dans cette même situation. C'est-à-dire, on est entre l'océan et le fleuve Sénégal qui débouche, et donc on est là dans un endroit tout à fait extraordinaire, des pêcheurs et des migrants qui risquent beaucoup. Et c'est, bon, Saint-Louis, c'est un endroit tout à fait étonnant. Voilà, donc j'ai fait un certain nombre de reportages là-dessus. Puis un reportage un peu plus urbanistique là, c'est sur les places italiennes, et notamment les places en pente. Enfin, comment la topographie et les places sont des choses très importantes. La topographie dans une place est une chose très importante. Donc celui-là, il s'appelle Place Plissée. Voilà. Donc en fait, l'objet, 1200 pages, mais 6 cahiers, et donc un autre papier pour les cahiers, des histoires que je raconte un peu plus longuement. Un peu comme 21, avec derrière une page qui pour en savoir plus sur l'affaire. Donc voilà l'objet bouclé. Donc on est arrivé à 1200 pages avec l'édition Parenthèse, avec qui j'avais déjà fait pas mal de choses. Et l'objet, à ma grande surprise, est sorti. Et donc maintenant, alors c'est un objet dont je m'aperçois, bon, ça fait qu'un mois qu'il est un peu en circulation, qui fonctionne très très bien de 7 à 77 ans, à ma surprise. Je ne sais pas du tout quel est son public, je ne sais pas. Voilà. Alors, ce n'est pas à ta question, est-ce que c'est un journal intime ? Oui et non. C'est un peu un journal intime comme le film de Danny Moretti est un journal intime. C'est-à-dire que ce n'est pas du tout un journal intime. Le film de Danny Moretti, c'est un prétexte pour parler. Il a fait d'assez beaux interviews, d'ailleurs, sur ce film. Je ne sais pas si vous avez vu ce film qui est tout à fait extraordinaire. Il y a une descente de Vespa dans Rome. Il y a un voyage dans les îles. Et puis, il y a comment il passe de médecin en médecin. Parce que, voilà. Donc, c'est plutôt ça. Il n'y a rien de... ça a été assez censuré par Susanna, assez censuré par d'autres gens. Donc, il n'y a pas de... les gens qui doivent se retrouver s'y retrouvent, mais les autres ne peuvent pas le décrypter.
Pas de procès en perspective.
Il n'y a pas de procès en perspective jusqu'à maintenant. Peut-être des citations. Je ne sais pas, qu'un autre éditeur, peut-être un peu jaloux, a dit, mais est-ce que... Si tu cites Olivier Rollin, est-ce que tu lui as demandé si tu pouvais le citer ? Je ne sais pas, peut-être... Des gens ont des réponses, mais enfin, j'ai pris ce risque. Voilà.
Si on passe à la question du dessin et peut-être du titre, oui. Alors moi qui sais à peu près lire, écrire et compter, mais pas du tout dessiner, je suis évidemment très, très jaloux et je me dis que je suis forcément un peu handicapé. Voilà, le dessin. Alors, la quatrième de couverture dit l'observation, etc. Bon, qu'est-ce qu'amène le dessin ?
Bon, moi, je n'ai pas. J'ai décidé que très tardivement. Mm. Après 68, les professeurs de dessin avaient été virés au profit de l'abstraction lyrique et du gestuel et du tachisme, etc. Aujourd'hui, il existe sous forme, dans toutes les écoles d'architecture du monde, sous forme, on est censé apprendre un peu à dessiner en première année, et puis après, les étudiants foncent sur apprendre des logiciels pendant 5 ans, et puis après, ils sont cloués derrière des écrans, et puis ils sont bien, bien embêtés, parce que, ça, je parle comme professionnel d'une agence d'une trentaine de personnes, et c'est ce qui se passe dans les autres agences. Leur difficulté de dessiner ou de faire des schémas très rapidement les handicape dans leur progression. Parce qu'ils sont scotchés derrière des écrans. C'est très difficile de communiquer même avec les autres gens de l'agence ce qu'ils font sur leurs écrans. Et donc, voilà. Alors, moi, je me suis mis à dessiner justement à l'occasion d'un voyage où je m'embêtais un peu. Enfin, je ne m'embête pas souvent, mais enfin, bon, j'avais plus de bouquins. Et puis, j'ai commencé à m'y mettre. Mon conseil, c'est qu'il faut un peu insister. Donc, je te conseille d'insister. Tout le monde peut s'y mettre, mais il faut un peu insister. Il faut passer 3 jours, puis c'est vraiment si au bout de 3 jours, il ne faut pas gommer. Et au bout de 3 jours, tu achètes un carnet, n'importe quoi, tu prends un feutre. Et puis, si au bout de 3 jours, vraiment, tu es content de rien, bon, tu abandonnes. Mais normalement, au bout de 3 jours, tu trouves des trucs. Tu me donnes des conseils, tu regardes un peu plus. Et puis, il faut. Alors, moi, je décide très, très vite, très impatiemment. Et je dessine en marchant, en roulant en voiture, dans des avions. Voilà. Et je dessine aussi des choses. Il y en a un certain nombre dans le bouquin, des choses qui bougent. Par exemple, en avion, c'est assez amusant de dessiner des paysages en avion. Voilà, j'aime évidemment beaucoup regarder. Je prends toujours le hublot arrière pour faire des photos, mais aussi dessiner. Parce que vous avez le temps de voir défiler. Donc vous commencez votre dessin et puis vous êtes à 1000 mètres, 1000 km heure. Vous êtes un peu plus loin, donc vous finissez le dessin plus ou moins, etc. Par exemple, je dessine la télévision de temps en temps. C'est très amusant de dessiner la télévision parce que vous commencez, il y a un personnage, vous commencez, pof, vous ne savez pas quand ça s'arrête. Il revient, donc vous finissez le truc, etc. Vous pouvez dessiner le Tour de France, vous pouvez dessiner. Donc moi, ce qui m'amuse, c'est c'est de dessiner assez vite. Et en plus, quand je voyage, je suis souvent avec des gens, je ne veux pas les faire attendre. Donc sauf à me lever très tôt et à m'installer, à dessiner plus classiquement dans une mosquée. Donc je prends le temps de dessiner la mosquée. Mais grosso modo, voilà. Donc c'est un peu du dessin. Alors ce que m'a permis toute cette expérience de dessin très libre. Hein, donc vous verrez, il y a des crocodiles, il y a des paysages, il y a des bâtiments, il y a des plans, il y a vraiment un peu de tout. Ça m'a permis quand même de me mettre à inventer des formes de petits schémas que j'ai mis au point pour ce livre « La vie de franchisé », qui m'a permis de me faire comprendre, enfin, d'essayer d'expliquer des phénomènes très complexes sur des très grandes échelles que sont les métropoles contemporaines. Comment ça marche entre les routes, les maisons, les centres commerciaux. Donc j'ai, je pense, cette expérience du dessin, ou cette pratique du dessin, a fait que je ne me suis pas embarrassé à trouver des cartes sur l'évolution de très grandes villes. J'ai essayé de comprendre les phénomènes et j'ai essayé de les restituer. Donc j'utilise beaucoup ça professionnellement. C'est assez efficace. C'est très efficace dans les dialogues avec les maires parce que on comprend assez vite le rapport entre la main et la tête, et ça marche assez bien. Voilà, donc je n'utilise pas le dessin. Quand je fais des projets, je n'utilise pas le dessin, sauf que j'utilise pour commander des perspectives assez conventionnelles qu'on vous demande. Mais je l'utilise pour expliquer les projets à l'aide de petits schémas explicatifs, dimensionnés, qui permettent de comprendre les choses. Ça, si j'avais pas délier ma main par le dessin pendant quelques années avant, je pense que je n'aurais pas trouvé ce truc-là. Voilà.
Et le titre ?
Alors, le titre, il m'est venu... comment est-ce qu'il m'est venu ? Il m'est venu parce que il a évidemment sa part d'ambiguïté. Desert Lines, en anglais, c'est un peu les chemins les plus courts pour aller d'un point à un autre. C'est-à-dire que quand vous êtes sur un campus, par exemple, il y a des allées organisées avec les bâtiments, etc., mais tous les étudiants, ils coupent sur la pelouse, ils recoupent comme ça, et finalement, ils font le chemin. Il y a même des paysagistes, voire des urbanistes maintenant, etc., qui disent qu'il faut faire comme ça. Vous proposez un espace, et puis vous regardez comment les gens se l'approprient, et puis vous le stabilisez une fois que vous avez compris comment les gens se l'approprient. Donc c'est un peu ce... Parce que cette idée-là, à la fois, voulait dire qu'il y a le désir du dessin, le plaisir du dessin, et puis il y a effectivement l'idée de la ville passante que j'ai beaucoup développée dans le champ théorique, c'est beaucoup dire, mais enfin dans le champ des controverses contemporaines sur la disparition de l'espace public, les environnements fermés, etc. Donc c'était aussi une façon de faire écho à un certain nombre de mes préoccupations, de mes batailles quotidiennes sur le champ professionnel par rapport aux questions de l'espace public. Voilà, donc c'était, sinon il pouvait y avoir Deadline, mais enfin Desert Lines, c'est quand même mieux. Et bon, puis je voulais, c'est pas que je suis fan d'avoir des titres anglais pour avoir des titres anglais, mais je me suis dit qu'après, s'ils devaient circuler, ça permet de... Combien... Alors, c'est un livre de dessins, mais ne pas s'y tromper, il y a des textes aussi. Il y a des textes, je me suis donné un peu de mal pour écrire des textes. Et quelquefois, je pense que le texte est meilleur que le dessin, quelquefois le dessin est meilleur que le texte, mais... voilà, ça m'a beaucoup amusé. Enfin bon, les textes, je les ai. Il y a un certain nombre de textes qui sont des commentaires sur des choses que j'ai vues ou des explications. Il n'y en a peut-être pas assez d'ailleurs. Il y a quelquefois des gens me disent c'est quoi ce dessin-là. Donc je ne me suis pas appliqué à mettre sur chaque dessin c'est le crocodile, le machin, de la ferme au crocodile, etc. Donc je ne voulais pas faire ça, puisque je ne voulais pas faire carnet de voyage. Donc voilà, le dessin se promène un peu. Mais les textes... alors les textes, il y en a un certain nombre qui sortent d'un blog que j'ai tenu pour le Nouvel Observateur, où ils étaient très demandeurs, parce que c'était un blog dessiné. Donc, et puis entre la charge de l'agence, de l'enseignement et du reste, je n'arrivais pas à tenir le rythme. Ça me prenait la tête, comme quand on doit rendre une tribune tous les samedis soirs. Quand on a déjà fait sa dose, voilà. Mais j'ai gardé cette vingtaine de blogs que j'ai fait, et j'en ai remis un certain nombre dedans. Voilà.
Alors il y a une constante, même si les dessins prennent des sujets extrêmement variés, effectivement des chats et des crocodiles, il y a beaucoup de visages. Beaucoup de silhouettes, il y a des façades, il y a des plans vus d'avion, il y a des ambiances de rue, il y a des babioles, des objets, etc. Mais il y a très souvent cette idée quand même que ça se passe chemin faisant, en marchant, en voiture, à vélo, en avion. Et cette idée qu'on retrouvait, moi j'aime beaucoup un bouquin que certains connaissent peut-être qui s'appelle « Le passant considérable » d'Isaac Joseph, qui est un sociologue de l'urbain qui avait repris la formule adressée à Rimbaud pour mettre en évidence l'idée finalement très simple, mais pas si prise en compte que ça, que c'est la mobilité qui permet l'appréhension et l'usage de l'espace. Là, c'est effectivement toujours en traçant, si je puis dire.
Oui, il y a un collègue de l'AUC, une agence dont un des François de Coster, qui est un des deux associés principaux, on échangeait, mais qu'est-ce que tu fais ? Je dis, bon, je fais un bouquin, en ce moment, je fais un gros bouquin avec mes dessins. Puis je venais de sortir un gros bouquin sur le Grand Paris, qui s'appelle Paris-Babel, très sérieux dans son genre. Et il m'a dit, tu vas enfin faire un bouquin sur les métropoles. Donc, il n'avait pas tort, en fait. C'est une phrase qui m'est restée. C'est-à-dire cette façon de restituer cette diversité de situations, ce qui vous accroche, ce qui ne vous accroche pas. C'est la grande ville, c'est ça. Alors, il n'y a pas que de la grande ville. Il y a aussi de la campagne, parce que pendant les vacances, on voit la campagne au bord de la mer. Mais effectivement, toute la partie grande ville... En mélangeant des gens, des voitures, en dessinant des voitures, parce que la plupart, par exemple, les croquis d'architectes, on voit jamais de voitures dessus en général. On voit à peine des gens. Enfin, si c'est des gens, c'est des mannequins, enfin, ou des silhouettes. Donc ça m'amuse de mettre. Je pense dès que vous mettez les voitures dans les rues, ça devient une rue aujourd'hui. Si vous mettez pas si vous faites que des rues médiévales, ça fait un peu bizarre. Quoi. Donc voilà, donc c'est aussi une façon de rendre compte de la complexité et du mouvement dans les villes contemporaines.
Et en même temps, je crois que c'est dans l'entretien à Urbanisme, tu dis sur des sites particuliers, mais ça peut généraliser, que finalement la représentation, quelle qu'elle soit, échoue toujours à dire le réel et qu'il faut y aller, quoi. Et ça, c'est assez troublant. Vous connaissez le bouquin de Pérec, La tentative d'épuisement d'un lieu parisien. J'ai l'impression qu'il y a un peu de ça, quoi. C'est-à-dire il y a cette idée qu'il faut rendre visible, qu'il faut donner à voir, qu'on s'y prend mal en général. Oui. Et qu'en même temps, c'est une quête impossible, quoi.
Non, mais parce qu'aussi, je me suis aperçu que les manuels sur les villes, ou les ouvrages sur les villes, ils reproduisent par paresse ou pour des problèmes d'argent, je ne sais pas, toujours les mêmes plans. Toujours les mêmes plans, toujours... et que c'est, et quelquefois c'est très faux. Je prends deux exemples, mais il y en a d'autres. Édimbourg, par exemple, je ne sais pas si vous êtes allé à Édimbourg, il y a un fameux plan d'extension de la ville d'Édimbourg. La ville d'Édimbourg est sur une crête, donc il y a une ville médiévale très spectaculaire, c'est assez volcanique. Et puis vous avez un vallon, et puis il y a une ville neuve qui a été faite en face, très fameux par un très jeune architecte qui a gagné le concours. Et puis après, donc quand vous allez là-bas, d'abord, enfin, tous les plans qui sont dans les bouquins, c'est toujours l'éternel plan du concours de 1780, je ne sais pas, et qui ne rend absolument pas compte de la richesse de ce projet par rapport à ce dialogue entre la ville neuve. Et puis en plus, ça descend quasiment jusqu'à la mer avec d'autres figures et des bandes de parcs. C'est un projet extrêmement moderne en été dans sa composition. Chandigarh, la même chose. Chandigarh, vous allez à Chandigarh, vous voyez, enfin, si je vous parle de Chandigarh, les gens ont une image du Capitole et puis ça s'arrête là, quoi. Les photos de Lucien Hervé, Noir et Blanc, Thierry Cordeau. Des œuvres complètes de Le Corbusier. D'abord, la ville est tout à fait intéressante. Donc ça, en général, on n'en parle même pas. C'est ce modèle de l'urbanisme de secteur, mais très bien réalisé. Et puis, la topographie et tout l'ensemble du Capitole, l'esplanade du Capitole, le sol est entièrement modelé. Les bâtiments sont reliés entre eux par des espèces de grandes cours anglaises qui relient l'Assemblée, le secrétariat, etc. Si vous n'y êtes pas, vous... Donc, non seulement les bouquins n'en rendent pas compte, mais voilà. Autre exemple qui me vient, mais je pourrais les démultiplier, les jardins moghols, par exemple. Les jardins moghols, vous voyez toujours les photos, jardins moghols comme le tapis du Taj Mahal. En réalité, les jardins moghols, pour ceux qui sont allés en Inde, ils sont en fait, c'est des paradis sur des forteresses absolument gigantesques. Donc vous traversez, il y a un effet de seuil tout à fait extraordinaire. Vous prenez des rampes pour les éléphants, vous traversez des murailles qui sont larges comme la pièce, et puis vous montez en haut, et quand vous êtes en haut, vous êtes au paradis. C'est d'ailleurs la définition même du jardin. Et donc, vous avez effectivement cette feuille de marbre avec la flotte, les kiosques avec le Maharaja et ses harems, et c'est tout à fait autre chose. Mais la situation, l'effet de seuil, le parcours, il fabrique le truc. Voilà. Donc, et en général, dans les bouquins, vous voyez... des très belles photos dans l'axe de l'affaire, et donc c'est pas ça. Donc voilà, donc le dessin, ça permet un peu de se venger de cette fait un peu rouler dans la farine. Je prends un autre exemple qui m'a beaucoup amusé, c'est l'expérience des paysages chinois, par exemple, des montagnes chinoises. comme tout le monde, depuis l'âge de 17 ans que je feuillette des bouquins, pour moi, les paysages chinois, dans la peinture, j'ai toujours pensé que c'était des conventions, des abstractions très codées, comme François Julien ou d'autres auteurs ont raconté que c'était une peinture très, très codée. Donc, je pensais que c'était une peinture très, très stylisée. Et puis, 10 ans plus tard, j'ai vu des photos de Marc Riboud sur des paysages de montagnes chinoises. Et je me suis aperçu que c'était... Comme la peinture. C'est-à-dire que c'était les nuages sont accrochés, c'est des strates de schiste comme ça. Les arbres, ils sont effectivement horizontaux parce qu'ils partent du truc. Donc sur la photo, c'est comme ça. Et puis je suis allé 10 ans plus tard voir sur place, et puis j'ai commencé à dessiner. Et on ne peut pas dessiner autrement que la peinture conventionnelle chinoise. Voilà. Donc voilà, c'est ça, l'aventure du dessin, c'est assez marrant parce qu'on s'imagine des choses et puis arrêter, et quand on y va, et puis même quand on veut essayer de dessiner, tu vois, il y a des boucles qui se rebouclent inattendues.
Mais pour autant, la quête continue, parce que j'ai pris quelques citations quand même, petite analyse. Herman Melville, les lieux ne sont pas sur les cartes. Bon. Les cartes... au panier. Pessoa, voir au-delà des idées. Voilà. Donc, si on se met à nommer les choses, ça devient embêtant. Donc, on met ça au panier. Pasolini, les yeux qui ne voient pas. À propos de Rome, certes, mais d'une façon plus générale aussi. Et de fait, il y a beaucoup de citations comme ça. Eri De Luca, aujourd'hui on ne sait pas regarder les visages. Il y a toujours cette idée, voilà, qu'on ne sait pas regarder, que c'est peut-être une compétence personnelle, mais qu'on n'a pas beaucoup de médium pour aider à ce travail.
Oui, mais il y a une citation que je ne retrouve pas, mais que je peux dire, de Le Corbusier qui dit « on ne voit pas ce qu'on voit enfin, ». Voilà. Et c'est tellement vrai dans notre milieu d'architecte, c'est peut-être pour ça que je focalise sur cette question-là. Et puis comme prof, je vois bien ça. Et en plus, maintenant, l'écran fait l'écran. Ça peut arriver de faire travailler des étudiants sur un terrain qui était juste en face. Pendant 3 mois, je leur demande et après, je m'aperçois qu'ils ne l'ont même pas regardé ni mesuré, alors qu'il était au pied du campus.
Avec Google Earth, c'est plus facile.
Oui, mais c'est tout à fait différent quand voilà, Google Earth ne te donne pas la mesure, enfin, on te donne des mesures si tu interroges. Et donc, par exemple, cette pièce, si vous demandez à un architecte, il va vous raconter une chose tout à fait différente de ce qu'est cette pièce, quoi. Les proportions, la couleur, il va oublier de vous dire qu'elle est blanche, il va oublier de vous dire qu'elle est longue et basse, etc. Alors qu'ils sont dans ce domaine-là, il y a une espèce de brouillage où, il y a un grand mot d'idéologie qui toujours là aussi fait un écran. Il n'y a pas que les écrans qui font écran, il y a aussi une espèce d'idée ou déjà des projets qui fait qu'on perd beaucoup de la substance des choses. Donc oui, effectivement, si ces citations se répètent, c'est que derrière il y a Anguille Souroche. Tu as raison.
Très bien. Bah, écoutez, merci beaucoup pour cet éloge du dessin.